Le millefeuille revisité. Bonjour et bienvenue sur l'autre radio en compagnie de Christine. Pour cette sixième édition du millefeuille, j'ai choisi de vous parler d'un roman récent paru en 2017 et qui parle de migration, d'identité, de l'Algérie et de trois générations marquées par la guerre et le déracinement. Il s'agit de « L'art de perdre » d'Alice Sénitaire.
Qu'est-ce que ça veut dire avoir des racines et pourquoi on devrait être déterminé par elles si on considère que des racines seraient voilà à 1000 kilomètres dans un pays qui ne nous est plus rien alors que la vie elle s'invente chaque jour et au présent en France. Hamid lui décide que ça ne le concerne pas et c'est ce qu'il va répéter à ses frères et sœurs, ensuite à ses filles, l'Algérie ne me concerne pas. Et Naïma elle est plus ambiguë par rapport à ça, mais quand elle va aller en Algérie, elle va se rendre compte aussi de à quel point elle se sent française, à quel point tous ses référents culturels sont français.
C'était donc Alice Sénitaire que nous venons d'entendre au cours d'un entretien mené par Patrick Simonin pour l'émission L'Invité sur TV5 Monde, une interview réalisée à la sortie de son livre L'Art de perdre, où elle évoquait le destin de ses trois personnages principaux, Ali, Hamid et Naïma. Sans plus attendre, une mise en bouche pour démarrer, avec le début de ce roman, mais exceptionnellement, ce n'est pas les premières pages que j'ai choisi de vous lire, mais plutôt la fin du prologue, car il illustre parfaitement la quête de Naïma, cette jeune galeriste vivant en France, petite fille de Harki, mais on ne peut pas non plus limiter son identité à ses étiquettes. Est-ce qu'elle a oublié d'où elle vient ? Quand Mohamed dit ces mots, il parle de l'Algérie. Il en veut aux sœurs de Naïma et à leur cousine d'avoir oublié un pays qu'elles n'ont jamais connu. Et lui non plus d'ailleurs, puisqu'il est né dans la cité du Pont-Ferron. Qu'est-ce qu'il y a à oublier ? Bien sûr, si j'écrivais l'histoire de Naïma, ça ne commencerait pas par l'Algérie. Elle naît en Normandie. C'est de ça qu'il faudrait parler. Des quatre filles de Hamid et Clarisse qui jouent dans le jardin, des rues d'Alençon, des vacances dans le Cotentin. Pourtant, si l'on croit Naïma, l'Algérie a toujours été là, quelque part. C'était une somme de composantes, son prénom, sa peau brune, ses cheveux noirs, les dimanches chez Yema. Ça, c'est une Algérie qu'elle n'a jamais pu oublier puisqu'elle l'a portée en elle et sur son visage. Si quelqu'un lui disait que ce dont elle parle n'est en rien l'Algérie, que ce sont des marqueurs d'une immigration maghrébine en France dont elle représente la seconde génération, comme si on n'arrêtait jamais d'immigrer, comme si elle était elle-même en mouvement, mais que l'Algérie est par ailleurs un pays réel, physiquement existant, de l'autre côté de la Méditerranée, Naïma s'arrêterait peut-être un moment et puis elle reconnaîtrait que oui, c'est vrai, l'autre Algérie, le pays, n'a commencé à exister pour elle que bien plus tard, l'année de ses 29 ans. Il faudra le voyage pour ça. Il faudra voir Alger apparaître depuis le pont du ferry, pour que le pays ressurgisse du silence qu'il avait masqué mieux que le brouillard le plus épais. C'est long de faire ressurgir un pays du silence, surtout l'Algérie. Sa superficie est de 2 381 741 km², ce qui en fait le 10e plus grand pays du monde, le premier sur le continent africain et dans le monde arabe. 80% de cette surface est occupée par le Sahara. Cela, Naïma le sait par Wikipédia, pas par les récits familiaux, pas pour avoir arpenté le sol. quand on est réduit à chercher sur Wikipédia des renseignements sur un pays dont on est censé être originaire, c'est peut-être qu'il y a un problème. Peut-être que Mohamed a raison. Alors ça ne commence pas par l'Algérie. Ou plutôt si, mais ça ne commence pas par Naïma. Sa situation sur mon étagère, eh bien, L'art de perdre et les autres livres d'Alice Zeniter se trouvent entre ceux d'Antoine Wauters et ceux d'Émile Zola. Je ne pense pas que cette situation lui déplairait, sincèrement. Côtoyer Zola, ce pilier de la littérature française, grand humaniste qui a su dénoncer maintes fois les injustices de la société. Quant à Antoine Wauters, romancier, poète de la même génération qu'Alice Zeniter, si elle ne l'a pas lu, elle pourrait trouver des affinités avec cet auteur qui a rendu un bel hommage à Sylvia Plath et à ses grands-pères dans son recueil Sylvia, et qui a obtenu le prix du Livre Inter en 2022 pour Mahmoud ou la montée des eaux, un long poème d'ombre et de lumière où nous côtoyons Mahmoud, un vieux Syrien qui revit son passé et celui de son pays, la perte des siens, en plongeant dans les eaux sombres du lac El Assad, ces eaux qui ont englouti la maison où il a grandi. Mais si Alice Zeniter avait choisi les auteurs qui l'entourent, elle aurait sûrement opté pour Toni Morrison, et notamment son roman « Soula », histoire d'amitié entre deux femmes noires confrontées dès l'enfance à la dureté de leurs conditions dans l'Amérique profonde. Elle aurait choisi aussi Sally Rooney pour son roman « Normal People », roman que l'on pourrait qualifier d'apprentissage. Michael Ende pour « L'histoire sans fin », un livre fondateur pour Alice Zeniter, un roman de fantasy qui traite de l'envie de raconter, d'inventer des histoires. Et puis Laurent Mauvignier pour « Histoire de la nuit », magnifique roman proche du thriller avec une tension incroyable de la première à la dernière page. Et bien entendu, Dostoïevski, qu'on ne présente plus, pour notamment les frères Karamazov. Revenons à son auteur. Alice Zeniter est née en 1986 à Clamart, dans les Hauts-de-Seine, et a grandi à Champfleur, dans le nord de la Sarthe, près d'Alençon. Romancière, enseignante, traductrice, scénariste, dramaturge, metteuse en scène de théâtre, si Alice Zeniter interroge dans plusieurs de ses livres l'identité, on peut dire qu'elle ne pourra pas être cantonnée à un seul art et à une étiquette, tant elle développe sa palette de création au fil du temps et des rencontres. On peut dire qu'elle est précoce aussi en écriture, car c'est dès l'âge de 16 ans, en 2003, qu'elle publie son premier livre, 2-1=0, aux éditions du Petit Véhicule, et quand elle est élève à l'École normale supérieure, elle écrit déjà son deuxième roman, Jusque dans nos bras, paru en 2010. Elle a vécu plusieurs années en Hongrie, où elle a enseigné le français, d'où le lien personnel avec ce pays qui ne sera pas étranger à l'écriture de son roman « Sombre dimanche », prix du Livre Inter en 2013. Et c'est aussi en Hongrie qu'elle fait ses premiers pas dans la mise en scène et la dramaturgie. En 2021, de son essai intitulé « Je suis une fille sans histoire », elle mettra au point, et avec quel talent, une conférence gesticulée du même nom où elle interroge la construction des grands récits qui font notre culture depuis l'Antiquité et la place qui occupe les femmes. Et plus récemment, elle s'est tournée vers le 7e art en co-réalisant avec Benoît Volney, cinéaste, le film « Avant l'effondrement », sorti au printemps 2023, une fiction centrée sur les questions à la fois politiques et existentielles engendrées par le dérèglement climatique. Yeah,
عيش تجري في السهل قيم ذا الحباب ذي سلامة يا ويقادي غي حملة ما دل دغزي العمار يا دلو غرغر ذا غروة ما يلا وان دغت تشوف يا اسمح لقولة بنينا قال ذاك لهنا ما بريدك يهون ذاوي ما تربح ما ربح مرة ما تغلي تسمح ذوي
De perdre est le cinquième roman d'Alice Sénitaire. Son titre fait allusion à un poème d'Elizabeth Bishop que l'on retrouve d'ailleurs à la page 496 du livre. Ce roman nous parle d'identité au pluriel, de transmission, de migration et de génération, des silences que l'on trouve au cœur de la famille et dans l'histoire tragique de l'Algérie et de la France, avec comme toile de fond les oubliés de l'histoire que sont les harkis. Cette fresque romanesque qui se déroule de 1930 à aujourd'hui commence dans les montagnes de Kabylie avec l'histoire du patriarche Ali et elle se poursuivra en France avec le fils Hamid et la petite fille Naïma, trois personnages qui de part et d'autre de la Méditerranée traverseront chacun à leur façon l'histoire intimement liée de l'Algérie et de la France. Une traversée de la Méditerranée qui se fera pour Ali et Hamid, alors enfants, sous le coup du mauvais sort réservé aux harkis, et une traversée à rebours pour Naïma, adulte, à la recherche de réponses au silence qui résiste au passé familial, ce passé dont elle a besoin pour se construire. Est-ce la part autobiographique de ce roman qui lui apporte une force supplémentaire ? Je ne sais pas, mais toujours est-il que c'est un récit puissant et très sensible. Alice Sénitaire raconte qu'à l'origine de ce roman, il y a eu, entre autres, la lecture de l'essai de Nicole Lapierre, « Sauf qui peut la vie », où l'auteur part de l'histoire de sa famille de juifs polonais pour arriver à l'histoire des migrants aujourd'hui. Alice Sénitaire dit que c'est pendant cette lecture que lui est revenu un vers d'Homère, « Les malheurs des hommes sont faits pour être chantés. C'est là qu'elle s'est rendue compte que l'histoire des Harkis n'avait jamais été chantée. Prix Goncourt des lycéens en 2017, L'Art de perdre a depuis fait l'objet d'une belle adaptation théâtrale grâce à Sabrina Kourougli, qui en a réalisé la mise en scène et qui a interprété elle-même le rôle de Naïma. Comment j'ai découvert ce livre ? Eh bien, j'ai tout d'abord découvert Alice Sénitaire à la sortie de son troisième roman, Sombre dimanche, sur les conseils d'une amie. Un roman qui se déroule en Hongrie et nous parle aussi de plusieurs générations qui vivent dans une maison en bois près d'une gare, d'identités qui se cherchent au travers des drames familiaux et de la grande histoire qui les traverse. Alors, L'Art de perdre est arrivé à moi facilement avec le succès et les critiques élogieuses dont il a fait l'objet à sa parution. Je l'ai lu, je l'ai aimé, et comme tous les livres avec lesquels un lien particulier se crée, j'en ai parlé autour de moi, je l'ai prêté et offert. Et pour avancer un peu plus loin dans cette découverte, je vous propose à présent un deuxième extrait du roman avec le début de la deuxième partie, La France froide. C'est l'arrivée en France d'Ali au camp de Rivesaltes. Le camp Joffre, appelé aussi camp de Rivesaltes, où après les longs jours d'un voyage sans sommeil arrivent Ali, Yema et leurs trois enfants, est un enclos plein de fantômes. Ceux des républicains espagnols qui ont fui Franco pour se retrouver parqués ici, ceux des juifs et des tziganes que Vichy a raflés dans la zone libre, ceux de quelques prisonniers de guerre d'origine diverse que la dysenterie ou le typhus ont fauchés loin de la ligne de front. C'est, depuis sa création, 30 ans plus tôt, un lieu où l'on enferme ceux dont on ne sait que faire, en attendant officiellement de trouver une solution, en espérant officieusement pouvoir les oublier jusqu'à ce qu'ils disparaissent d'eux-mêmes. C'est un lieu pour les hommes qui n'ont pas d'histoire, car aucune des nations qui pourrait leur en offrir une ne veut les y intégrer. Ou bien un lieu pour ceux auxquels deux histoires prêtent des statuts contradictoires, comme c'est le cas des millions d'hommes, de femmes et d'enfants qu'on y accueille à partir de l'été 1962. L'Algérie les appellera des rats, des traîtres, des chiens, des terroristes, des apostats, des bandits, des impurs. La France ne les appellera pas, ou si peu. La France secoue la bouche en entourant de barbelés les camps d'accueil. Peut-être vaut-il mieux qu'on ne les appelle pas. Aucun nom proposé ne peut les désigner. Ils glissent sur eux sans parvenir à en dire quoi que ce soit. Rapatriés ? Le pays où ils débarquent, beaucoup ne l'ont jamais vu. Comment alors prétendre qu'ils y retournent, qu'ils rentrent à la maison ? Et puis ce nom ne les différencierait pas des pieds noirs qui exigent qu'on les sépare de cette masse bronzée et crépue. Français musulmans ? C'est nier qu'il existe des athées, et même quelques chrétiens parmi eux, et ça ne dit rien de leur histoire. Harki ? Curieusement, c'est le nom qui leur reste, et il est étrange de penser qu'un mot qui au départ désigne le mouvement, Arka, se fige ici, à la mauvaise place, et semble-t-il, pour toujours, tous désignés désormais par le terme de Harki. Est-ce que le fils du boulanger est boulanger ? Est-ce qu'un coiffeur qui change de métier est toujours coiffeur ? Est-ce qu'un vendeur de vêtements est tailleur sous prétexte que les deux métiers se ressemblent ? Le camp est une ville précaire, poussée dans la précipitation sur les ruines de l'utilisation précédente et dont les nouveaux baraquements sont à peine assemblés que déjà ils sont insuffisants. Chaque jour, ou plutôt chaque nuit, car les transports se font dans la clandestinité, le camp grossit davantage, alimenté par le flux continu des camions bâchés venus tout droit de Marseille ou bien du Larzac, que l'on désengorge pour éviter la catastrophe humanitaire. À l'automne, cette ville de fragilité et d'urgence, cette ville peuplée de perdus, compte près de 10 000 habitants, ce qui en fait la deuxième du département, juste après Perpignan.
On dit qu'il y fait toujours beau, c'est là que migrent les oiseaux. On dit ça de l'autre bout du monde. J'avance seule dans le brouillard, c'est décidé, ça y est, je pars, je m'en vais. Alors
Comme résonance avec ce roman, j'aurais pu évoquer d'autres romans qui évoquent les histoires de familles traversées par la grande histoire où l'identité peine à se construire face aux trous de la mémoire familiale. Mais c'est plutôt la guerre d'Algérie et l'histoire des Algériens qui vivaient en France à cette période qui s'est imposée à moi. C'est donc un roman paru en 1967 qui a mis en lumière la condition des ouvriers et des ouvrières de l'industrie automobile française dans les années 50-60 et le racisme subi par ces ouvriers venus d'Algérie. Cette histoire, c'est aussi celle des amours clandestines d'Élise et d'Areski. Vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit d'Élise ou la vraie vie, un roman également d'inspiration autobiographique que l'on doit à Claire Etcherelli. Retrouvons donc avec un extrait Élise et Areski lorsque le printemps allège les esprits et qu'ils s'invitent jusque sur la chaîne de montage. Impatient d'apparaître, le printemps bousculait février et nous passâmes plusieurs soirées dans le square de la chapelle. Nous savourions jusqu'à l'usure ces plaisirs modestes qui nous étaient permis. À l'approche de la nuit, le ciel éclatait. Des figures mouvantes se poursuivaient, se chevauchaient, se fondaient et s'engloutissaient derrière un mur pour remonter plus loin en spirale transparente. « Regarde la lune !» Areski me tirait par le bras. je disais « Oh !» émerveillé. Alors il me secouait. « Mais non, c'est le lampadaire. Regarde mieux, son pied est caché par les arbres. Les mirages de la civilisation. » Et nous partions à rire en nous appuyant au dossier du banc. Toutes les 5 minutes, le métro aérien fracassait le tendre soir. Des klaxons de police croissaient et décroissaient, et nos respirations suivaient leur rythme. Nous engagions des paris sur l'éclatement prochain des bourgeons. Les paumes de nos mains se frottant l'une contre l'autre cherchaient le creux molle où se couler. Peau contre peau, nos doigts vibraient. Mais tout à coup revint la grisaille, matinée froide, horizon borné et opaque. Mars commença ainsi jusqu'au 18, le premier jour clair après les brouillards. Il nous surprit comme un sourire inattendu sur un visage morne. Les nuages lentement déchirés, le soleil parut enfin. Les regards suivaient chaque faille avec espoir. Ce 18 mars. À midi, nous ouvrîmes tous les carreaux. À 1 heure, nous retrouvâmes les voitures chaudes. L'air était doux. Il donnait envie d'être aspiré la bouche ouverte. Les hommes retroussaient leurs manches. Entre chaque portière, un visage brun surgissait dans la clarté. Cela se fit tout doucement. Quelqu'un d'abord dans le haut de la chaîne, frappant la tôle avec un outil, puis un autre, frappant avec ses mains, les paumes sur la ferraille chaude, le soleil sur les chromes, 1000 soleils dans la voiture, des cils baissés quand la lumière les atteignait. Les gestes devenaient plus mous. On vissait et tapait. On vissait un peu et tapait davantage. Le chant partit de plus loin, de l'extrême bout de la chaîne. Un appel sourd, long. En face, les marteaux répondirent. Ils tapaient, cristallin, le même appel monocorde. Quelques mains bientôt se mirent à claquer. Mustapha courut dans l'allée. Il avait entendu. « Oh !» fit-il. Il aspirait l'air, le gardait dans sa poitrine. « Oh ! Oh !» Grimpant sur un toit, il commença de taper en balançant la tête. « Mustapha !» 2 fois, quelqu'un cria son nom. Il se mit à taper plus fort. Les Tunisiens se rapprochèrent, Areski aussi. Toutes les mains claquèrent, scandant les mots que Mustapha, du haut de sa voiture, lançait dans le soleil. Il y avait dans l'atelier 76 un cercle d'hommes qui tapaient en chantant, les yeux presque blancs, roulant la tête. Ce n'était plus un jeu. C'était, au sens pur du mot, une détente. Une revanche sur les gestes rétrécis de la chaîne, sur son rythme étriqué. Les Français mettaient un point d'honneur à ne pas s'approcher. Quelques-uns, pourtant, qu'étonnaient ce délire, regardaient et riaient. Une citation de l'auteur, Alice Sénitaire. Je ne comprends jamais mieux les choses que quand je suis en train de les écrire. Et l'écriture me donne un laboratoire de la compréhension. Pour moi, la littérature est le lieu du temps et du doute, et non le lieu où on délivre un message. Mais je considère également que l'une des choses que la littérature peut faire, c'est de travailler sur le changement du regard, de reconfigurer les représentations, et permettre de se réapproprier autrement les choses qui nous entourent. Des forêts et des pluies. On le savait déjà, les arbres, et donc les forêts à plus grande échelle, sont de formidables et précieux aspirateurs de CO2. On le savait déjà aussi que la pluie nous arrive de la mer grâce à l'évaporation de l'eau transportée par les nuages sous l'action du vent. Mais saviez-vous que sans la présence des forêts le long des côtes, les continents seraient désertiques à 600 kilomètres du bord de mer? En effet, plus on s'éloigne de la mer et des côtes, et plus les nuages porteurs d'eau s'amenuisent et disparaissent au fil de leur distribution. C'est donc là que les forêts jouent leur rôle de pompage et de redistribution. La pluie qui s'est déposée sur le feuillage va se transformer en vapeur d'eau et repartir sous forme de nouveaux nuages qui déverseront à nouveau l'eau transportée un peu plus au centre du continent. Sachant qu'un mètre carré de forêt correspond à 27 mètres carrés de feuilles et d'aiguilles, on comprend la capacité de stockage et de redistribution d'eau permise par les arbres. Avec ce phénomène de transport, des régions situées à des milliers de kilomètres de la mer peuvent bénéficier de quasiment autant d'eau de pluie qu'une région côtière. Mais cette belle mécanique s'enraye si les arbres disparaissent en bordure de mer. Le relais ne se fait plus et les forêts plus éloignées de la mer s'assèchent. C'est ce qui se produit avec la déforestation des zones côtières en Amazonie. Les forêts tropicales et pourtant humides de l'intérieur des terres se dessèchent. Alors, à bon entendeur, salut. Merci pour votre écoute et rendez-vous pour le prochain Millefeuille Revisité, toujours sur l'autre radio.